C'était en janvier 2010, le 29 et le 30 janvier. Il y a des enquêteurs d'Ipsos, armés de leur téléphone, qui ont appelé 1017 personnes pour leur poser des questions sur leurs habitudes de lecture de la Bible. J'ai les résultats. Ils sont surprenants. Il y a une partie qui concerne les jeunes de moins de 25 ans particulièrement. 32% de ces jeunes déclarent que c'est intéressant de lire la Bible, ce serait intéressant de la lire, c'est bien de la voir. Mais il n'y a que 9% qui la lisent. Et sur ces 9%, il n'y a que 3% qui la lisent tous les jours. C'est pas beaucoup, hein. 91% des jeunes de moins de 25 ans ne lisent pas la Bible, ne l'ont jamais lue, et n'ont pas tellement l'intention de le faire finalement. Est-ce que vous croyez que ça veut dire que 91% des jeunes ont décidé de donner aucun sens à leur vie? Ont renoncé à ça? Je pense pas. Simplement, ils trouvent le sens de leur vie ailleurs. Ils trouvent leur réponse ailleurs. Ils trouvent leur encouragement ailleurs. Ils trouvent leur réconfort ailleurs. Leur espérance ailleurs. Ils trouvent leur force ailleurs. Ils trouvent leur guide ailleurs. Alors je me suis demandé, j'ai fait ma petite enquête moi aussi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui préoccupe les jeunes en fait? On l'a vu un petit peu tout à l'heure pendant le temps de louange. Qu'est-ce qui préoccupe les jeunes? J'ai demandé, j'ai eu des réponses surprenantes aussi. Quelle carte graphique je dois choisir pour mon PC pour réussir à faire tourner Fortnite sans que ça lag? Bon, si vous avez rien compris, c'est normal. Est-ce que je travaille assez pour réussir mon bac? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que je vais pas me planter? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que les gens m'aiment pour ce que je suis? Ou parce que je me maquille bien et parce que je me fais tout classe et puis que je dis pas de bêtises? Est-ce qu'ils m'aimeraient vraiment s'ils me voyaient tel que je suis? Est-ce que je vais trouver le grand amour? Quand est-ce qu'on mange? Si, on m'a dit ça. Alors, dans la Bible, on trouve plein d'instructions. On trouve plein de choses. Mais il n'y a rien pour faire les meilleures gaufres du monde. Il n'y a pas. Il n'y a rien pour bien choisir son PC non plus. Cherchez pas. Il n'y a rien pour faire un kickflip si vous êtes skater. Ça vous apprendra pas ça. D'ailleurs, il n'y a pas le prénom de votre grand amour non plus. C'est pas écrit dedans. Mais par contre, il y a plein d'instructions pour savoir comment choisir votre conjoint et comment réussir votre vie avec cette personne. Il n'y a pas le métier que vous devriez faire, mais par contre, il y a comment avoir une vie qui rend gloire à Dieu dans le métier que vous allez exercer. Il n'y a pas non plus d'instructions sur comment faire pour que les gens t'aiment, que les gens t'apprécient. Par contre, il y a plein d'instructions pour savoir comment toi, tu peux aimer les autres. Il n'y a pas d'instructions pour devenir riche, célèbre, puissant. Je sais pas ce qui vous fait rêver. Mais il y a plein d'instructions pour savoir comment être libéré de ce qui vous entrave, comment être réconcilié avec Dieu, comment être heureux en toutes circonstances même. Ça fait un paquet de trucs intéressants à voir. Et le passage de ce matin, il nous montre comment dans ce monde corrompu, la parole de Dieu contient tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie qui compte, une vie qui rend gloire à Dieu, une vie qui porte du fruit. Alors on va lire, c'est dans 2 Timothée 3, tout le chapitre, carrément un gros morceau ce matin. C'est page 784, en bas à gauche, si j'ai bien noté. Et je vais lire tout le texte parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie unité dans ce chapitre. Tout conduit aux 2-3 derniers versets de la fin, mais il faut tout comprendre d'un coup. Est-ce que vous l'avez? Ouais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ah, je vais peut-être m'arrêter. Juste avant, c'est Paul qui parle à Timothée. J'ai pas réintroduit, c'est vrai que c'est une série qu'on fait. Donc certains étaient là, d'autres pas là. Paul parle à Timothée. Paul, un peu l'ancien, le mentor, qui parle au jeune Timothée, qui est responsable dans une église. Et ça se passe pas trop bien. On a vu dans les autres chapitres, il doute un peu de ce qu'il y arrive, est-ce qu'il a sa place. Puis il y a des tensions, il y a des trucs qui vont pas. Et du coup, Paul, là, veut l'encourager. Donc c'est Paul qui parle à Timothée pour l'encourager. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées de toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie, ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Grande tirade. Jusqu'ici, c'était la parole de Dieu. Le reste, je vais essayer de la décortiquer un peu, on va essayer de la comprendre, de se l'appliquer à nous, de voir en quoi ça nous concerne. Si je devais donner un titre, j'aurais mis « Enseigne la parole de Dieu qui sauve et qui transforme ». Avec trois parties qui sont juste le déroulement du texte pour moi. Se méfier des enseignants de mensonges, imiter les enseignants de la vérité, et puis enfin, former les futurs enseignants par la parole de Dieu. Se former soi-même et former les autres, transmettre aussi aux autres. Dans la première partie, on commence tout de suite, puisque c'est un gros pavé, c'est se méfier des enseignants de mensonges. Alors, Paul, il fait souvent des grandes listes, comme ça, il en fait dans deux, trois autres lettres, des listes un peu terribles de comportements, comme ça, et bon, en fait, en général, il décrit, même presque partout, il décrit les gens du monde, les gens qui vivent sans Dieu, les gens qui vivent selon la chair, les gens qui décident ce qui est bien, ce qui est mal, qui veulent rien avoir à voir avec Dieu. Et des fois, d'ailleurs, c'est des sacrées listes, hein, ça fait un peu peur. Mais celle-là, la liste qu'il fait là, elle me glace. Parce qu'il parle de gens de l'église, de Timothée. Des gens dans l'église, moi aussi. C'est pas une liste pour décrire des gens qui n'en ont rien à faire. C'est des gens qui sont là. Cette liste, en fait, pour nous, ça peut être un peu comme la sirène d'alarme. Vous retrouvez dans deux, trois comportements, un ou deux, bon, l'alarme clignote, comme ça. Je rentre chez vous, salut, c'est quoi te... Non, t'inquiète. 3, 4, l'alarme, elle clignote vraiment fort. Les mecs me disent, pénible ton truc, là, ça, je l'ai dans l'œil. Non, 5, 6, là, elle commence à faire un bip. Mais, oh, c'est quoi ce truc chez toi, là? Non, mais je sais pas comment l'éteindre, j'arrive pas. Puis si vous avez toute la liste, alors là, il y a une lampe dans chaque pièce, et puis ça hurle comme ça, la sirène de, vous savez, là, quand c'est tous les mercredis, là. Voilà, celle-là, on peut même plus s'entendre. Là, cette liste, elle devrait être pour nous, elle devrait être ça. Petite sirène d'alarme. Pour chacun, hein, pas pour dire, toi, tu fais pas les trucs bien, regarde. Pour chacun. Alors, on va la parcourir un petit peu. Il y a trois catégories de comportements, je trouve. J'ai essayé de les regrouper un peu. Il y en a un, c'est l'amour de l'argent. L'amour des plaisirs du monde. Deuxième. Et l'amour de soi-même. L'amour de l'argent, c'est facile. Il y a ami de l'argent, donc c'est ami de ses propres intérêts. L'amour des plaisirs du monde, c'est surtout pas les plaisirs de Dieu. Manque de piété. La piété, c'est quoi d'ailleurs? Piété, c'est de l'application dans sa foi. La violence, la cruauté en face de ceux qui pratiquent le bien. C'est-à-dire qu'en plus, comme je suis un peu jaloux, parce que moi je vois que je le fais pas bien, alors quand je vois des gens qui font bien, ça m'énerve. L'égarement dans les plaisirs du monde. Et l'amour de soi-même, la vantardise, l'orgueil, les blasphèmes. C'est quoi les blasphèmes? Dire du mal de Dieu. La rébellion à nos parents. Aïe, là, il y a une petite alarme. Là. L'indifférence, la dureté, être insensible à l'enseignement. Je sais pas dans le texte, mais c'est implacable. Je veux rien savoir, je t'écoute pas. Le fait de dire du mal, la médisance. Là aussi, hein, ça clignote, là, ça commence à piquer. Là. On est tous à un moment ou à un autre un peu médisant. La traîtrise, l'emportement, l'aveuglement par l'orgueil. Voilà notre orgueil. Je crois que moi, je sais mieux que toi. Je crois que j'ai tout compris, donc je suis aveuglé. J'écoute pas. Et le verset 5, tout de suite après, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Et là, je me suis dit, bah mince, si les mecs font tout ça, mais qu'est-ce qu'il leur reste comme apparence? Pétard, faut le faire quand même. Ça sonne dans tous les coins de la maison, là, les alarmes et tout. Et ils ont l'apparence de la piété, ces gars-là. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, ça serait quoi pour nous l'apparence de la piété? Venir le dimanche? Est-ce que je peux venir le dimanche et avoir un problème avec la colère? Ah ouais. Est-ce que je peux chanter? Et avoir un manque d'amour? Ah ouais, aussi. Est-ce que je peux conduire la louange, même, et avoir un problème d'empathie avec les autres, ou de pas vouloir être enseigné, moi-même? Je veux bien enseigner les autres, mais faut pas déconner non plus. C'est possible aussi, ça. Et en fait, tout. Pouvoir toutes les apparences de la piété et être concerné par cette liste. Tout, en fait. Alors, c'est quoi, du coup, ce truc-là? L'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Alors, dans le chapitre 2, donc juste avant, premier verset, on avait « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors, peut-être il y a un lien, là, parce que il vient juste de dire ça et il continue. C'est-à-dire que la force est dans la grâce. Et eux, ils renient la force. Ils ont la forme, L'apparence, il renie la force. Je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il renie la grâce qui les sauve? Ça, je pense pas. Quand tu fais tous ces comportements-là, tu te dis, eh bien, heureusement qu'il y a la grâce. Parce que sinon, je pense, hein, j'imagine pas que c'est ça qui renie. Ou alors vraiment, ils sont dans... je pense pas que c'est ça qui renie. Mais ce qui renie, peut-être, c'est que la grâce est puissante pour les transformer. Parce que justement, ils sont pas transformés. S'ils ont tout cette pile de trucs et que ça change pas dans leur vie, c'est qu'ils sont pas transformés. La grâce sauve, la grâce transforme. Je le dis souvent ici, moi, c'est un thème qui m'est cher. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre la différence entre la miséricorde et la grâce. Est-ce que, comme ça, d'emblée, ça, oui, la différence entre la miséricorde et la grâce. Alors, j'ai trouvé une petite image simple. La miséricorde, c'est quand on vous punit pas comme vous le mériteriez. Vous méritez quelque chose et quelque chose de mal, vous méritez une punition, on vous la donne pas. La grâce, par contre, vous êtes indigne, mais on vous fait un cadeau. On vous donne quelque chose que vous méritez pas. Alors, la miséricorde est contenue dans la grâce, hein. La grâce englobe la miséricorde, bien sûr. Mais c'est pas tout à fait pareil. Si on veut une image, vous arrivez avec votre caisse toute pourrie, là, tellement pourrie que vous êtes même pas sûr qu'elle passera au contrôle technique. Vous arrêtez au feu rouge, vous avez bombé quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'elle est abîmée qu'on ne peut pas bomber. Donc vous avez bombé, puis vous arrêtez au feu rouge, et là il y a le flic qui vous rattrape, baissez votre vitre. Déjà il s'est arrêté au feu, c'est bien. Il dit ouais, vous avez roulé beaucoup trop vite là, vous méritez 90 balles. Vous pleurnichez tout ça, puis le gars, allez, c'est bon, roule, mais le refais plus, hein, j'ai noté ta plaque et tout ça. Ça, c'est la miséricorde. Il vous a pas appliqué le truc que vous méritiez. Maintenant, la grâce, vous arrivez à votre caisse pourrie, vous arrêtez au feu rouge, et là il y a un mec qui toc toc à la porte, il prend ses clés comme ça, il dit tiens, c'est la Ferrari qui est là, c'est pour toi. Laisse ta poubelle, tiens. Ça, c'est la grâce. Un nouveau truc. Alors, je vais développer un petit peu pour qu'on comprenne bien ce que c'est que cette grâce qui transforme. J'ai pris quelques versets dans la parole qui nous montrent que la grâce est une capacité. Un truc que Dieu nous donne, un truc qu'on n'est pas capable nous-mêmes, qui nous donne et qui nous rend capable. 1 Corinthiens 15, verset 10. Alors, c'est pas 753, mais je sais pas si vous avez intérêt à tous les chercher. Je vais vous les lire. 1 Corinthiens 15, 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. La grâce me transforme, je suis ce que je suis par la grâce. La grâce me rend efficace, j'ai travaillé plus, pas moi, mais la grâce. 2 Corinthiens 12, verset 9, c'est page 761. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce agit quand j'arrête de compter sur mes forces. 2 Corinthiens 8, verset 1 et 2, mais j'en ai plein, hein. J'en lis un dernier, page 759. Paul décrit la grâce de Dieu que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Et il dit, en parlant de ces églises, « Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. » Donc la grâce, ça vous rend joyeux dans les épreuves, ça vous rend généreux quand vous êtes pauvre. Ça, c'est la grâce de mon Dieu. Ça, c'est la grâce qui transforme. On se dit, mais comment c'est possible que ces gens-là aient fait ça? Comment c'est possible que ce mec-là ait fait ça? Avec tout ce qu'il a vécu, avec tout ce qui traîne. Ça, c'est la grâce de Dieu. On continue, verset 6. « Certains d'entre eux, donc tous ces gens-là de ce paquet de faux enseignants, s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Ah, ça c'était la grâce, le cadeau, pardon. Ça, c'est les enseignants de mensonges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de maison en maison. Toc, toc. Ils vont de maison en maison proclamer leurs mensonges. Alors évidemment, soyez pas des... Il y a deux catégories là qu'il décrit. Il décrit les trompeurs actifs. Toc, toc. Et il décrit les proies faciles. Je me suis demandé là, qu'est-ce que c'était cette histoire de femmes crédules dans les maisons, chargées de péché, tout ça. Mais en fait, en regardant plusieurs traductions, il y a une autre forme possible de traduction, c'est femmelette. Et femmelette dans la Bible, ça veut pas dire personne qui se déguise ou je sais pas quoi. Femmelette, ça veut dire personne mal affermie. Personne qui savent pas trop ce qu'elles croient, ils ont jamais trop... Et ça va bien avec le texte, puisqu'il dit, ils ont envie de toujours... ils sont intéressés par toutes les nouveautés, tous les trucs, mais ils parviennent jamais à la connaissance. C'est-à-dire qu'ils... C'est des gens qui, je sais pas, vous en connaissez peut-être, qui ont toujours dit « Ah, c'est nouveau, c'est cool ce truc, fais voir, ah, je clique, ah, il y a une autre vidéo. » Et puis en fait, on va jamais au fond des choses, on réfléchit jamais, on se fait pas une conviction, en s'écartant du coup de tout le reste. Une fois qu'on a choisi, on s'écarte, toujours à l'affût d'un nouveau truc. Donc soyez pas des proies faciles, les jeunes. Vous êtes des proies faciles, si vous savez pas ce que vous croyez. Et Jannès et Jambres, il en parle juste après. Alors c'est qui ces gars-là? C'est les deux magiciens du Pharaon. J'ai essayé de refaire l'histoire vraiment très vite, mais... Quand Dieu avait demandé à Moïse d'aller sortir son peuple d'Égypte, il l'envoie avec vraiment là des capacités. Là, je ne sais pas si on peut dire des grâces, mais vraiment, il est surpuissant, Moïse, par la force que Dieu lui donne. Il peut faire des trucs bizarres, genre jeter son bâton par terre, ça devient un serpent, ou des trucs comme ça. Ça, c'était pour prévenir. Puis après, c'est Dieu carrément qui fait des plaies, enfin des catastrophes en Égypte. À chaque fois, le truc est le même. Moïse vient voir le pharaon, lui dit « Laisse mon peuple partir, sinon Dieu va faire ceci, cela. » Pharaon dit « Des clous, m'en fiche de ton truc, c'est parce que vous êtes des feignasses que vous voulez partir. » Dieu fait tomber la catastrophe. Pharaon vient supplier Moïse « Prie ton Dieu qu'il arrête ça, c'est horrible !» Et puis Moïse prie, et il dit « Je laisserai ton peuple partir, évidemment. » Moïse prie, le truc s'arrête, et puis après il dit « Non, c'est bon, vous restez. » Et ce qu'on apprend sur Jannès et Jambrès, alors pas dans la Bible, il n'y a même pas leur prénom dans l'Ancien Testament de toute façon, mais dans d'autres écrits historiques qui ont été retrouvés, on apprend qu'en fait, déjà ils essayaient d'imiter les miracles que faisait Moïse, ils n'y arrivent pas longtemps. Hein. Dès qu'il s'agit de transformer la poussière en animaux, là c'est carrément un acte créateur, là plus personne, il n'y a plus personne, là ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils peuvent faire certains autres trucs. Et on apprend en fait que chaque fois que les plaies s'arrêtaient, donc Pharaon supplie Moïse, Moïse prie Dieu, les plaies s'arrêtent. Et Jannès et Jambrès, ils disaient « c'est nous !» C'est pas Moïse, c'est nous qu'on l'a fait. Et donc du coup, peut-être on peut retenir un truc là, c'est les enseignants de mensonges, ils s'attribuent des trucs qui ne sont qu'à Dieu. Ils s'attribuent peut-être des capacités qui n'appartiennent pas à eux. Alors il dit, méfie-toi de ces enseignants de mensonges, éloigne-toi d'eux, et au contraire, imite les enseignants de la vérité. Et ça c'est ma deuxième partie, imite les enseignants de la vérité. Alors le premier truc, on va le relire, ça sera plus simple. Versets 10 à 14. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Et le premier truc, c'est de qui tu l'as appris. Aujourd'hui, on peut tout apprendre. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Elle est dans votre poche, elle est dans tous vos écrans. Alors c'est bien parce que du coup, il y a tout. Mais c'est pourri aussi parce qu'il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Et Paul l'encourage à se rappeler de qui tu l'as appris. Quelle personne. Et après, il dit quoi ? Bah, suis-moi, moi. Bon, nous, on n'a pas tous Paul. On a ses lettres. On n'a pas tous Paul. Je pense qu'il y a un enseignement aussi de choisir quelqu'un, d'avoir un Paul et de le suivre. Ou d'en avoir plusieurs, peut-être. Mais toujours bien savoir qui c'est et qu'est-ce qu'on retient de cette personne, qu'est-ce qu'on apprend de cette personne. Et Paul, en fait, comme il vient de lui dire, n'imite pas ses enseignants de mensonges, et qu'il a fait cette longue liste, ben je me dis, quelque part, c'est peut-être un peu la checklist, le prérequis, avant de suivre un mentor, d'être dans la bonne attitude pour suivre quelqu'un, pour apprendre de lui. Et cette checklist, je vous l'ai préparée, parce que je suis gentil, parce que c'est plus rapide. Donc j'ai pris la liste et je l'ai inversée. S'il ne faut pas être comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il faut être ? Ça donnerait déjà, soit modeste, soit humble, donc enseignable. Rends gloire à Dieu, sois soumis à tes parents, sois reconnaissant pour tout. Sois discipliné dans ta foi. Ça, c'est bizarre, ça, je le tire d'où, ça, discipliné dans ta foi. C'est l'inverse de impie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'impiété ? C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, ça. Ça, c'est ce que je veux vous faire croire, mais c'est quoi, impie ? Impie, c'est je crois que Dieu existe, mais je me comporte comme s'il n'existait pas. Peut-être ça une bonne définition d'impie. Être empathique, enthousiaste, compréhensif, doux, encourageant, ami du bien, fidèle, posé. Accepte de regarder en face tes propres faiblesses. C'est pareil, ça je le tire d'où ce truc-là. Accepte de regarder en face tes propres faiblesses, c'est pas marqué. Aveuglé par l'orgueil. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. J'ai pas besoin de tes conseils. Et puis j'ai pas de problème d'ailleurs, qu'est-ce que tu me veux ? Et apprends à trouver ton plaisir en Dieu. Et avec ce prérequis, Paul nous encourage à suivre de près. À le suivre lui de près, mais ou notre mentor si on en a un. Qu'est-ce qu'on doit suivre de notre mentor ? Il donne 7 domaines. Son enseignement, qu'est-ce qu'il dit ? On a ses lettres, mais bon, qu'est-ce que dit la personne que vous suivez ? Sa conduite, qu'est-ce qu'il fait ? Si c'est pas en accord, c'est bizarre. Ses projets, quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses priorités ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, des fois dans votre vie ? Quelles sont mes priorités ? Quels sont mes objectifs ? On n'aime pas trop des fois ça. Mais on en a tous, hein, quand on part en vacances, on fait plein de listes, tout, on fait gaffe, on n'oublie rien. C'est bizarre, pour les vacances on le fait, mais pour notre vie, pas toujours. Sa foi, sa confiance en Dieu, les vérités en quelles il croit, comment il comprend la Bible, comment il l'étudie, son amour, j'en ai oublié un, sa patience, n'est pas patient aujourd'hui, tout devrait aller vite, je devrais trouver tout de suite, je devrais comprendre tout de suite, je devrais déjà avoir réglé ce péché là, ce truc qui m'embête, ça devrait être déjà fini. Mais le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre, des fois pour apprendre on a besoin de plus de temps. Son amour, sans l'amour tout est vain. Paul, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, qui fait une longue tirade sur l'amour, vous pourrez la relire si vous voulez. La persévérance dans l'épreuve. Parce que si c'est pour tout abandonner à la première épreuve, ça sera dommage, ça sert à rien. Et à deux, peut-être que c'est ça aussi l'encouragement. À deux, avec un mentor, avec quelqu'un qu'on voit régulièrement, peut-être qu'on peut s'entraider. C'est plus facile de tenir à deux. Et Paul dit, d'ailleurs, juste après, qu'il a eu plein de persécutions, et qu'il a été délivré de toutes. Mais vous savez où il est quand il écrit ça? En prison. Et je crois même que c'est la dernière. Hein. C'est vraiment la fin, là, de Timothée, en plus, c'est vraiment la fin de la fin, quoi. Donc il doit le savoir. Hein. Alors comment un gars qui est en prison dit « Le Seigneur m'a délivré de toutes mes souffrances » Bah, c'est la grâce, hein, la grâce qui transforme. Celle qui fait qu'enchaîné, on se sent libre. Celle qui fait qu'à terre, on se sent vivant. Que moqué, on se sent toujours aimé. Alors il dit « Imite-moi, imite les enseignants de la vérité et deviens toi-même un enseignant de la vérité. » On va relire aussi, c'est pas très long la fin. C'est pas très long, mais tout se concentre ici sur ce qu'il veut dire en fait avec tout ce chapitre. Versets 15 à 17. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Tu vas s'arrêter juste là quand même. Est-ce que là, il est en train de dire te rendre sage, les écritures peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que Timothée n'est pas sauvé? Pas très sûr. Parce que ça veut juste dire que les Écritures ont la sagesse qui va faire que les gens vont ajouter foi et être sauvés. Peut-être, c'est possible. Peut-être aussi que c'est que les Écritures et la foi que tu mets dedans, en Jésus qui te sauve, ça te régénère, ça te transforme, ça te guérit. Mais tous les jours, pas une fois pour toutes. Ok, t'es sauvé, t'as échappé au jugement. Oui, c'est la miséricorde ça. Tu méritais ça, tu l'as pas. Super. Et j'espère que vous êtes tous sauvés par cette miséricorde. Mais là, peut-être qu'il parle plutôt de toutes les détresses que tu m'as décrites ou que j'ai bien vues dans le début de 2 Timothée. Que tu te sens pas à ta place, que tu te sens pas assez fort, que peut-être t'es même plus confiant, tu sais même pas si t'as vraiment la foi, tu doutes. Peut-être que tout ça, il te faut la grâce chaque jour pour être sorti de tout ça, pour être secouru. D'ailleurs, c'est Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous pour trouver grâce, pour être secouru au moment opportun. » On parle pas du salut, là, non plus. Au moment opportun, c'est quand on a besoin. La grâce est là quand on a besoin. Faut la demander par contre. Et j'ai de la suite. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Premier truc sur lequel je vais m'arrêter, c'est la Bible est inspirée de Dieu. Qu'est-ce qui est inspiré de Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est Saint Paul? Saint Matthieu? Saint Moïse? On dit même pas ça. Toute l'écriture, les mots, les phrases, Dieu a voulu qu'ils soient là-dedans et Dieu en a fait sa parole. Pour nous. Alors est-ce que on peut décortiquer un petit peu rapidement quand même. L'inspiration de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Parce que là quand même on est gentil, mais la lettre qu'il écrit là, il n'y avait pas la Bible comme on a nous là, le truc blanc que vous avez entre les mains. Cette lettre venait juste d'être écrite d'ailleurs. Donc prenons l'Ancien Testament déjà. Jésus et ses disciples, ils citent 295 fois, je n'ai pas vérifié, hein, 295 fois l'Ancien Testament, en disant que c'est les Écritures. Donc ça paraît clair. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, là, il y a beaucoup d'endroits où c'est « ainsi dit l'Éternel »,« ainsi parle l'Éternel », blablabla. Là, on peut se dire « c'est clair ». Mais il y a plein d'autres endroits où c'est pas écrit « ainsi dit l'Éternel ». Qu'est-ce qu'on peut croire sur ces endroits-là? Il y a un endroit, je vous ai pris un exemple, dans Matthieu 19, versets 4 et 5, c'est page 632 en haut à droite, c'est Jésus qui cite la Genèse. Donc là, Jésus qui va tout au début. Et il dit « Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair ». C'est dans Genèse 2, 24, page 4, en bas à gauche. Et qui c'est qui parle dans Genèse? C'est Moïse. C'est pas écrit « Dieu dit », c'est Moïse. C'est Moïse qui écrit. Enfin, on pense que c'est Moïse qui écrit. Donc, Jésus dit que quand Moïse écrit ça, c'est Dieu qui parle. Il dit pas que Moïse est Dieu. Et le Nouveau Testament alors? Ça, c'est intéressant, j'ai creusé un peu ça et je trouve ça vraiment intéressant. Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 16, page 804, les gens déforment, il parle des lettres de Paul. Les gens déforment le sens de ces lettres comme ils le font du reste des Écritures. C'est-à-dire que les lettres de Paul, Pierre considère que les lettres de Paul sont les Écritures. Et Paul maintenant, dans 1 Timothée 5, 18, donc c'est dans la première lettre, il cite les Écritures. Il dit « Les Écritures disent « L'ouvrier mérite son salaire ». Vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament, hein, « L'ouvrier mérite son salaire ». Il n'y a pas. C'est dans Luc, Luc 10, verset 7. Donc, Paul cite les Écritures, il cite Luc. Donc ça fait un tout ça. Les gens qui ont étudié tout ça. Alors si la Bible est inspirée de Dieu, la Bible a l'autorité de Dieu, toute la Bible. Si elle a l'autorité de Dieu, ça veut dire que si on prend un passage et qu'on dit ça, j'y crois pas. Si on prend un passage et on dit ça, j'ai pas très envie d'y obéir. Ben, on le dit pas à la Bible où on peut se trouver des excuses, mais on le dit à Dieu, en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment important que cette Bible, c'est pour ça que j'ai mis une Bible qui a l'air magique, là. Elle est inspirée de Dieu. Mais pour que ça marche, faut quand même l'ouvrir, hein. Et l'ouvrir pourquoi? À quoi elle sert? Et là, on a une liste de versets, quatre verbes, pardon. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Ils vont par pair. Enseigner, convaincre, c'est enseigner la vérité, convaincre d'erreur. Donc, moi, j'aime mieux le terme réfuter, ça dépend des traductions, mais j'aime mieux enseigner, réfuter, parce que ça nous fait bien comprendre. Enseigner la vérité, réfuter les erreurs. Et le deuxième s'adresse plutôt à notre comportement. Corriger ce qui est tordu, corriger ce qui ne va pas, et instruire, éduquer, apprendre comment on devrait être. Ça veut dire que la Bible, elle doit parler à deux aspects. Elle doit parler à la foi, à ce que tu crois, elle doit parler à ton comportement, à ce que tu fais. On peut peut-être y voir aussi un ordre logique, chronologique. On commence par découvrir la vérité, la croire. Ça va nous aider aussi à discerner les erreurs, parce que dès qu'on commence à dire, je sais pas, il y a eu des baptêmes il y a pas longtemps, oui, je crois, machin, tout ça, bah, comme par hasard, là, tout le monde nous tombe dessus. Ouais, mais comment tu peux être sûr? Ouais, puis la Bible, elle est fausse. Ouais, puis... Donc, il faut tout de suite s'armer pour contrer les mensonges. Ensuite, corriger. Ben ouais, c'est pas parce que t'es sauvé, c'est pas parce que tu t'es fait baptiser que d'un coup, tout est neuf en toi et que t'as instantanément tout compris. Les mauvais comportements sont là, les mauvais réflexes sont là et ils vont rester un petit moment si on s'y attaque pas. Et donc la Bible là, est là pour nous aider à corriger, à montrer les erreurs et puis s'instruire, s'éduquer, s'encourager à faire le bien. Enseigner la vérité, je vais prendre deux, trois exemples. Enseigner la vérité, par exemple, dans Jean 6, verset 47, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu crois, t'as la vie éternelle. Voilà un truc qui peut nous rassurer, un truc qui peut nous donner confiance. Réfuter les erreurs et les mensonges, il y en a plein. Il y en a trois principales erreurs. Et vous allez voir que tous les mouvements un peu bizarres, tous les faux trucs commencent par un de ces trois, voire les trois en même temps. Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est, alors Jésus n'est pas Dieu, les juifs, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les mormons, enfin et plein d'autres. Jésus n'est pas Dieu. Le deuxième, je regarde parce que je voulais le tourner de la bonne façon. La Bible n'est pas fiable. La Bible n'est pas fiable ou elle est insuffisante. Il faut autre chose. Et le troisième, notre destinée éternelle ne dépend pas que de la grâce de Dieu. Dépend de la grâce de Dieu plus autre chose. Trois erreurs fondamentales et vous avez les réponses dans la Bible. Après, il y a corriger les fautes, redresser ce qui est tordu. Qu'est-ce qui est tordu en fait en nous? Le cœur. C'est le cœur qui est tordu. C'est le cœur qui doit être détordu. Les comportements, c'est ce qu'on voit, mais c'est les cœurs qui doivent être détordus. Dans Éphésiens 4, on voit des listes comme ça. Comme mentir, c'est tordu. Garder de la colère, c'est tordu. Voler, c'est tordu. Faire sortir des mauvaises paroles de notre bouche. Elles viennent d'où? Elles viennent du cœur. Tout ça, c'est des comportements qui viennent du cœur tordu. Et après, il y a instruire dans la justice. Être instruit, être éduqué. Là, j'ai pris un autre exemple. Pour venir en France, pour s'établir en France, faire quelque chose, là, il faut être citoyen français et respecter la Constitution française. Alors, vous connaissez sûrement pas tous les articles, mais je vais vous lire le 1 et le 2, vous avez sûrement déjà entendu. Article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça sonne... En tout cas, c'est ce qu'on dit. Article 2, la langue de la République est le français. Pas de problème. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. Et la devise de la République est... Vous voyez que vous connaissez. Est-ce que ce serait pas cool d'avoir la constitution du royaume de Dieu, écrite comme ça, pour savoir comment ça marche dans le royaume de Dieu? Parce qu'on peut être citoyen de ce royaume. Et puis ce royaume, il commence quand? On y est, il commence là. Jésus disait, quoi, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est là, ici, maintenant. Petit, il grandit. Ben, je vais en faire partie. Et ça serait pas cool d'avoir la constitution du royaume de Dieu? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. C'est dans la Bible. Le serment le plus important de toute l'histoire. Matthieu 5, 6 et 7. C'est la constitution du royaume, écrite par le roi lui-même, qui dit comment ça se passe dans mon royaume. Comment tu y rentres? Comment tu évolues? Qu'est-ce que tu peux y faire? Quel est mon objectif de transformation pour toi, pour ton cœur? Tout ça, c'est dedans. Comment ma grâce fonctionne? Comment ma grâce s'applique à toi, à ta vie, à tes problèmes? Tout est là-dedans. On n'a pas le temps de développer, mais je vous encourage vraiment à étudier le sermon sur la montagne. Et pour finir, c'est quoi l'objectif ultime de tout ça? Tout ce qu'on a vu depuis le début, et même, on peut dire, de tout depuis tout le début. Eh bien, c'est le verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » C'est le but de tout ce qu'on vient de dire. C'est nous rendre capables, par la grâce de Dieu, de vivre une vie qui porte du fruit. Des bons fruits comme ça. Pas des vieux trucs pleins d'épines, là, un bouffable. Des beaux fruits. Notre cœur, il fait quoi des épines? Dieu nous propose sa grâce pour faire ça. Avoir une vie remplie d'œuvres bonnes. Une vie qui compte pour lui, pour nous, pour les autres. Pas juste l'attente de « ça sera génial quand on sera au ciel ». Non, ça commence maintenant, tout de suite. Il n'y aura pas tout, mais ça commence maintenant. Si vous y réfléchissez bien, Dieu nous a créés à donner sa parole, l'évangile, à donner Jésus pour nous sauver, transformer des hommes rebelles en des hommes sauvés. Ça, c'était les deux premiers, instruire dans la justice, réfuter les mensonges. Une fois qu'on est sauvé, passer en homme transformé, ça c'est les deux autres, redresser ce qui est tordu et apprendre. Tout ça pourquoi? Porter du fruit et encore pourquoi rendre gloire à Dieu. Tout ça est un fil conducteur pour toute votre vie. Et tout est dans la Bible, tout est dans la parole. On ne peut pas faire des œuvres bonnes pour être sauvé. On le dit peut-être tous les dimanches ici. Hein. Vous ne pouvez pas faire des œuvres bonnes pour être sauvé. Par contre, vous êtes sauvé pour faire des œuvres bonnes. Ça, faut pas l'oublier. Sinon, peut-être qu'on renie la force de la grâce. La force de la grâce de Dieu pour nous changer, pour nous transformer. J'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors, pour les chrétiens de longue date, les membres de cette église, les membres de l'équipe pastorale aussi, pour moi. Bah, ce chapitre, il me rappelle que la Bible doit parler à ma foi et à mon comportement, qu'elle m'encourage à avoir un mentor, peut-être groupe de croissance, église de maison, trouver des gens avec qui je peux échanger, apprendre, me confronter, chercher dans la Bible toute la vérité déjà, et toutes les instructions pour ma vie, pour être transformé, équipé, formé à porter du fruit, et pour former les autres, transmettre, ce que j'essaye de faire aujourd'hui par exemple. Mais on transmet à plein d'autres occasions. Mais pour vous qui êtes jeunes, jeunes dans la foi, jeunes dans la vie, jeunes indécis, qu'est-ce que vous devriez retenir? Bah si la Bible est inspirée de Dieu, elle est la vérité. Et elle a aussi l'autorité de Dieu. Et si la Bible est vraie, bah faut la croire. Et la Bible est vraie même si tu n'y crois pas. Et aujourd'hui, les gens ne cherchent plus forcément la vérité. Ils cherchent qu'est-ce que ça m'apporte. Mais quand la vérité est vraie, il faut la croire. Il y a un film que j'ai bien aimé, Cloud Atlas. C'est un film de 2012. Il y a l'inspecteur qui interroge un suspect et lui dit « J'aimerais connaître votre version de la vérité ». Le suspect répond « La vérité est une. Elle n'a pas de version. Sinon, c'est pas la vérité. La vérité est une. » Et peut-être qu'on confond. En tout cas, je vous encourage à ne pas chercher votre vérité. Des fois, on dit ça. Cherche ta vérité. Pioche à droite, à gauche. Trouve ce que tu crois. Puis si ça marche pour toi, c'est cool. Je vous encourage vraiment à ne pas passer votre vie à chercher la vérité. Peut-être c'est parce qu'on confond la vérité et la réalité. On a parlé ce matin avec ce que vous nous avez montré, la réalité de ce que vous vivez. La vérité, il n'y en a qu'une. La réalité, votre réalité, il y en a une par personne. Avec quoi tu luttes? Quels sont tes doutes? Tes difficultés physiques? Les pensées qui te traînent vers le bas? Ça, c'est votre réalité. Et si votre réalité ne correspond pas à la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas vraie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vérité qui vous libère. Ça, c'est Jésus qui le dit. La vérité vous libère de tous ces trucs-là qui vous entravent, de toutes vos réalités qui sont... La réalité peut être difficile à plein de moments. Alors, attends pas la preuve ultime que la Bible soit vraie. Des fois, les gens s'acharnent là à trouver « Ouais, là, historiquement, là, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ?» et tout ça. Attendez pas cette preuve-là, parce que vous l'aurez pas. S'il y avait la preuve, on parlerait même pas de foi. On parlerait pas d'avoir confiance en Dieu. Donc, attendez pas cette preuve. Ce que je vous encourage à faire, c'est lisez les Écritures par vous-même. Et que je prie que les Écritures deviennent pour vous la parole de Dieu. Et que cette parole parle à votre cœur, chacun personnellement. C'est que comme ça qu'elle peut devenir efficace. Et c'est ma prière pour vous, jeunes, moins jeunes. Je vais prier. Ouais, Dieu et Père, je te prie vraiment pour tous ces jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Tu vois qu'on a plein de choix à faire. On a une réalité qui nous poursuit parfois, qui est compliquée, qui nous traîne vers le bas, qui peut des fois nous conduire à être découragés. Quand on peut être aussi découragé quand on voit dans quel état on est par rapport à ce que toi tu voudrais qu'on soit et l'objectif que tu mets devant nous. Mais je te remercie vraiment mon Dieu que c'est pas nos efforts qui peuvent nous y conduire, c'est que ta grâce. Et ouais, ce matin je veux remettre tous mes frères et sœurs à ta grâce qui seul peut les transformer, qui seul peut les changer. Et je te supplie que tu utilises les moments là, peut-être cette semaine où certains vont lire la parole de Dieu pour la première fois tout seul ou peut-être pour la 50 000e fois, mais que ta parole parle à leur cœur. Ta parole les transforme, qu'ils puissent trouver cette joie de se rendre compte, mais tiens, j'ai plus de problème avec ça. Je te prie vraiment, mon Dieu, que tu fasses ça pour quelqu'un cette semaine, pour tous ceux qui en ont besoin. Non seulement les sauver, mais aussi les transformer. Je vais te remettre la suite de cette journée, le moment d'agape qu'on va avoir ensemble aussi, que ce soit un moment aussi de discussion et d'échange, d'approfondir encore ce qu'on découvre dans ta parole. Dans le nom de Jésus, amen.